Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous poursuivons pendant ce temps de carême notre série sur le sacrement de pénitence et nous nous arrêtons aujourd'hui au sanctuaire Saint-Jérôme, lieu permanent de confession à Toulouse. Que nous dit ce lieu de la tradition populaire ? Sanctuaire Saint-Jérôme, lieu de dévotion populaire en plein centre-ville de Toulouse. Pour comprendre ce qui s'y vit, je reçois aujourd'hui le père Michel Pagès, recteur du sanctuaire. Bonjour père.
Bonjour.
À vos côtés, un habitué de ce sanctuaire Saint-Jérôme. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci à tous deux d'être là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le sanctuaire Saint-Jérôme est un peu comme le Saint-Louis d'Antin parisien, un lieu où la miséricorde est pratiquée au quotidien. Comment, père Michel Pagès, définiriez-vous ce lieu ?
Je crois que c'est un lieu par son histoire qui se définit par l'accueil. Alors, l'histoire de Saint-Jérôme a 400 ans, les pénitents bleus, mais déjà, des laïcs vivaient, avec des prêtres, vivaient cet accueil dans la spiritualité de Saint-François. C'est-à-dire la capacité de voir la misère, toute forme de misère, et même si des gens de haute naissance faisaient partie de ces pénitents bleus, ils accueillaient. Et donc, au fil des siècles, je crois que l'Église de Toulouse, avec des statuts différents, a toujours en ce lieu accueilli. Alors c'est vrai que c'est après la réforme conciliaire de ce sacrement que le diocèse de Toulouse a mandaté à l'époque, je crois que c'était le père Passama, que j'ai beaucoup aimé, et qui est allé prendre un peu le modèle de Saint-Louis d'Antin. Et c'est un peu le Saint-Louis d'Antin de Toulouse. Donc l'accueil. L'accueil qui inclut toute la part sacramentelle, mais qui inclut la dimension d'un accueil large.
Un accueil inconditionnel, alors accueil des fragilités, des misères, des enfants perdus, si on peut dire. Que viennent chercher précisément toutes ces personnes qui arrivent dans ce sanctuaire Saint-Jérôme ?
Nous sommes témoins d'un visage contrasté du monde. J'aime à dire, mais d'autres avant moi l'ont dit, que on a tout à Saint-Jérôme. Voilà, les Toulousains aiment ce lieu. Il est beau, il est accueillant, il est central. J'ai même dit, en d'autres circonstances, qu'il jouait une vocation même régionale. Au plan que des personnes qui viennent un peu à la capitale régionale pour diverses raisons, de santé parfois, aiment à venir se confesser. Parce que peut-être moins de prêtres aussi, là où ils vivent, et donc c'est aussi notre vocation. Donc vraiment un visage contrasté, reflet de la société. Donc aujourd'hui, dans le contexte de l'Église, qui quand même interpelle beaucoup de gens, qui frappe à la porte, plus que jamais on voit ces visages. Alors de chemin périlleux, de retournement, d'expérience, d'errance, de statut d'Église, d'interrogation sociétale sur ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait de sa vie, de sa sexualité, de son choix de vie, de son positionnement politique même parfois. Voilà. Donc c'est un visage très contrasté, très humain, mais dont enfin, on ne rentre pas innocemment dans ce lieu. Et donc, ça veut dire qu'on y pose des questions et on y attend un accueil.
Je vous vois, Hervé, opiné du chef, quand le père Michel Pagès a dit que les gens aimaient ce lieu. Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu de ce sanctuaire Saint-Jérôme ?
Déjà, quand vous rentrez, vous avez un couloir. Et quand vous regardez ensuite, donc, tout d'abord sur la gauche, vous avez une petite chapelle à Notre-Dame du Bon Secours. Et surtout, vous avez l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Donc déjà, vous avez un cadre calme, où il n'y a pas de bruit. Vous pouvez vous asseoir. Et d'ailleurs, pendant la confession, il faut faire un examen de conscience. Bon, normalement, on le fait avant. Hein. Mais là, vous pouvez profiter de ce moment pour rechercher en fait voilà tous les péchés que vous venez confesser et c'est vraiment un endroit accueillant et les prêtres sont très accueillants aussi et très différents les uns des autres.
Oui, parce que les prêtres, le sanctuaire Saint-Jérôme propose des permanences de confession tous les après-midi, et puis le samedi, c'est aussi le matin. Ces prêtres qui offrent du temps pour donner ce sacrement du pardon, Que disent-ils de ces permanences qu'ils font de semaine en semaine?
D'abord, ils sont très différents par l'âge et la condition. Enfin, à l'heure actuelle, on a aussi l'aide d'un jésuite. Il y a eu des carmes qui ont apporté leur pierre. Très différents par l'âge et par la condition et par l'engagement dans l'Église. Mais moi, j'ai veillé en arrivant à ce que nous nous retrouvions tous les confesseurs, tous les trimestres. Et pour un partage, alors qui évidemment ne parle pas des personnes, mais qui est fait pour nous aider à mieux accueillir et à mieux saisir les questionnements des personnes, alors théologiquement, pastoralement, spirituellement, tous les aspects. Parce que, tout à l'heure vous me posiez la question de qui nous accueillons, mais il y a aussi le visage toulousain d'une ville cosmopolite, c'est-à-dire qu'on accueille aussi les Afriques, je ne dis pas l'Afrique, mais les Afriques, les îles, l'Asie, avec amusement je dis parfois Airbus, parce que nous avons des Allemands, des Italiens, Espagnols, voilà, c'est le reflet aussi de la ville de Toulouse, et qui fait que cet accueil il prend ce visage, voilà,
aussi. Et dans ces prêtres qui viennent, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez notamment un prêtre qui a 97 ans. Qu'est-ce que ça dit, cette présence semaine après semaine, à cet âge-là, par exemple, parce que c'est un prêtre qui n'a plus de ministère, forcément.
Ça dit la fidélité des prêtres, qui à la fois doit s'ajuster à leur âge, à leur santé, mais au fond, la vie chrétienne aussi, c'est un ajustement perpétuel. C'est-à-dire que les prêtres le vivent, et les prêtres se confessent, et donc eux-mêmes. Et donc, y a un ajustement au fait qu'il n'y a pas d'âge, si j'ose dire, voilà, pour se confesser et pour accueillir.
Est-ce que les prêtres que vous voyez une fois par trimestre sont témoins de bouleversements à l'occasion de ce sacrement de la réconciliation?
Ô combien.
Ô combien.
Parfois, ils parlent dans des termes très précis. Moi-même, j'en suis le témoin. On voit des personnes qui... une chose est de prendre conscience de sa faute, de l'exprimer. Autre chose est pour nous, prêtres, confesseurs, de leur dire qu'il faut qu'ils appellent un chat, c'est-à-dire la grâce là où elle est. Et qu'ils mesurent que ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement un effort de leur part, mais c'est aussi quelque chose qui leur est donné de vivre. Et parfois, vous disiez des choses un peu exceptionnelles, mais c'est vrai. Moi, je dirais volontiers qu'on est témoin de beaucoup d'addictions. Je dis bien beaucoup, c'est un pluriel, reflet de la société. Et que dans ce pluriel des addictions, parfois, moi-même, je suis le témoin ému de personnes qu'on n'a pas vues parfois d'une longue période et puis qui disent « mais j'osais pas revenir parce que j'avais peur que cette guérison ne dure pas ». Là, je témoigne de certains mots dont certains confrères font l'écho aussi. Le fait que parfois la grâce, elle est là. C'est-à-dire qu'on est subitement, malgré tout un temps d'effort, on est subitement un peu libéré de certaines choses. Là, on touche à la grâce. Et les témoins sont parfois témoins de cela.
Les prêtres sont témoins de l'action de la grâce, hein, en chaque pénitent. En accueillant justement tout type de pénitent, le sanctuaire Saint-Jérôme accueille en quelque sorte l'humanité blessée. Comment cette humanité est-elle guérie?
Alors, c'est un des... Théologiquement, il y a ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, on en parle beaucoup dans ce temps pascal, ce temps de Pâques, mais il y a les deux autres sacrements qu'on appelle les sacrements de la guérison. Et les deux sont le sacrement des malades et puis le sacrement de la réconciliation, de la confession, du pardon. Et donc, le mot-clé, c'est guérir. C'est vrai que c'est un mot majeur dans la théologie chrétienne. Ce tout venant, on pourrait dire ce peuple de Dieu, vient parce qu'il a un besoin exprimé ou pas de guérir. Et moi, ça me touche beaucoup, ayant vécu des missions et des responsabilités dans le monde de la santé, ce mot, parce qu'on est témoin d'autres guérisons. Voilà. Et même je ferai le parallèle avec le fait que dans les hôpitaux, on était témoin de ce qu'on appelait l'urgence. C'est-à-dire qu'on avait eu une rencontre dans une situation d'urgence de l'hôpital, et on ne pouvait pas baser toute une théorie sur plusieurs rencontres. Il fallait vivre l'instant, le jour d'hui de Dieu et ce qui allait se vivre. Et je pense que parfois dans la confession, il y a un peu de ça. Alors après, il peut y avoir des régularités, il peut y avoir tout un cheminement légitime dont certains vivent, mais parfois il y a d'abord une situation d'urgence et dont le mot guérison a du sens.
Et comment vous répondez justement à cette situation d'urgence quand vous n'avez jamais vu un pénitent et que vous savez que vous ne le reverrez peut-être jamais ?
Mais par une dimension d'accueil, hein, et d'écoute. Là, je crois que la première qualité d'un prêtre, il me semble, mais c'est pas qu'en ce lieu et c'est pas réservé qu'aux prêtres, mais dans ce sacrement, l'écoute est majeure. C'est-à-dire qu'on n'est pas là d'abord pour consoler à bon compte ou écraser de bonnes paroles. On est là pour accueillir la personne dans ce qu'elle vit, au rythme qu'elle le vit, dans les expressions qu'elle a. Et on a à rebondir sur ça. Et je pense que c'est le principe vraiment de l'accueil, la grâce de l'accueil et de l'écoute qui vont avec.
Accueil, écoute, guérison, ça fait écho à la lettre pastorale que Monseigneur de Garimel vient de publier, où il invite à prendre soin les uns des autres.
Je suis très sensible à cette lettre et à cette dimension qui est du prendre soin les uns des autres. Il a parlé de la dimension communautaire où chacun devait trouver sa place, mais dans ce prendre soin mutuel, c'est pas que l'affaire des prêtres de prendre soin des autres, c'est toujours dans un dialogue et dans une complémentarité des vocations. J'ai lu dans son courrier, dans sa lettre pastorale, l'individualisme n'est pas humain. L'individualisme n'est pas humain. Et je crois que la grâce de la confession, c'est un peuple de Dieu qui vient frapper à la porte et qui dit « j'appartiens à ce peuple », mystérieusement, maladroitement parfois, avec des hauts et des bas dans mon cheminement de vie, mais je ne suis pas seul. Et il y a une mission de l'Église que notre archevêque nous rappelle de vivre. Et c'est très fort. Je crois que Saint Jérôme est un autre lieu pour le donner à voir.
Oui. Peut-être devrait-on distinguer l'écoute de la confession, puisque vous parlez, Père Michel Pagès, de ce lieu d'accueil, de ce lieu d'accueil inconditionnel, lieu de guérison. Mais comment vous faites la part des choses, finalement, entre l'écoute et la confession ?
Clairement, l'Église les sépare. La confession est une chose, les conseils sont légitimes, un certain dialogue, mais une certaine orientation parfois. Mais on distingue très bien, très clairement l'accompagnement, oui. C'est pas tout à fait du même ordre, voilà. Alors, je sais que des prêtres du sanctuaire accompagnent des personnes, c'est leur liberté, et parfois on répond à des demandes, on peut pas répondre à toutes, mais c'est deux choses différentes, parfois complémentaires, mais à distinguer.
Dans les personnes qui viennent se confesser à Saint-Jérôme, et puis nous entendrons votre témoignage, Hervé, il y a notamment des catéchumènes, tous ceux qui ont poussé la porte de l'Église, tous ceux qui ont été baptisés et qui découvrent ce sacrement de la réconciliation. Quel regard ont-ils et comment cheminent-ils ?
C'est très beau. C'est très beau parce que d'abord ils sont renvoyés par leurs équipes d'accompagnement et leurs prêtres vers ce lieu. Parfois ils le connaissaient déjà. Mais du coup ils sont dans cette démarche catéchuménale qui est très belle. Donc on sent une fraîcheur, un désir, une vérité qui est belle, qui est touchante et à la fois maladroite, mais au sens très beau de ne pas avoir d'idées préconçues ni de cachotterie. Il y a une espèce de noblesse dans cette démarche. Alors oui, on est un des lieux qui est témoin de ces démarches que l'Église de France vit de manière très forte. Et du coup, voilà, ils le vivent là et ils demandent un peu de l'aide aussi dans ce sacrement. Voilà. Est-ce que je peux, est-ce que je dois revenir ? Est-ce que si je suis tombé, je dois revenir ? Voilà, c'est des questions très très justes, très belles, très vraies. Quelque chose de complémentaire aux démarches catéchuménales, oui.
Et puis certainement des questions qui peuvent être partagées par des chrétiens, on va dire, habitués, hein, à cette façon de se poser la question, est-ce que, Est-ce que je dois revenir si je retombe? Ça questionne aussi la régularité de la confession.
Tout à fait. Alors, je dirais volontiers qu'un théologien disait que Jésus a donné ce sacrement du pardon, il a exercé le pardon et il a confié à son Église. Et l'expression du théologien, c'est « il n'en a pas donné les modalités ». Et ça m'a toujours fait sourire ce mot, parce qu'il n'en a pas donné les modalités, ni le rythme. Voilà. Donc, il a donné la grâce de ce pardon, il a confié à son Église et à son Église et au plus lointain d'en percevoir la force et la valeur. Du coup, bon, les traditions sont diverses et je pense que l'Église en a connu de très très diverses. Alors voilà, on dit parfois que des papes se confessent toutes les semaines, des fidèles se confessent tous les mois, d'autres vivent les temps forts de l'Église, d'autres plus très épisodiquement et puis d'autres redécouvre ou découvre carrément ce sacrement.
Hervé, vous avez été baptisé tout jeune et vous n'avez reçu aucun catéchisme, aucune éducation chrétienne. Vous avez fait un AVC il y a 6 ans et c'est d'abord la Vierge Marie qui vous a conduit à son fils par la prière du rosaire. Comment cette prière vous a aidé dans votre cheminement spirituel? Et puis après, on verra comment justement la Vierge Marie vous a guidé jusqu'à cette confession.
En fait, alors c'était pas il y a 6 ans, c'était en 2020.
Ça fait six ans.
En fait, j'avais commencé à lire les évangiles. On va dire que j'ai eu une descente après cet AVC ou une espèce d'ouverture du regard de ce qui était vraiment le monde aujourd'hui. Et donc, j'ai voulu commencer à faire cette prière du chapelet parce que je touchais le fond, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à la faire, mais elle m'a aidé déjà au niveau cérébral, parce qu'il faut de la concentration. Et est arrivé un moment où j'ai un ami qui habite en Dordogne, en fait, avec qui on s'appelait, qui était un peu dans les mêmes problématiques que moi. Et j'étais là un moment à me dire, mais en fait, ce monde, sans Dieu, l'amour n'existe pas sans Dieu. Si c'est ça l'amour, à quoi bon, quoi? Et donc, j'ai téléphoné à cet ami qui me dit « Tiens, hier, je suis allé me confesser. » Et je fais « Quoi? Toi, t'es allé te confesser? Mais c'est quoi cette histoire ?» Et puis, je sentais quelque chose en moi, comme une urgence grandir. Hein, vous en parlez, Père Pagès. Une urgence. Et j'ai commencé donc à lister tous les péchés que j'avais faits. Alors, je suis d'une génération années 90. Hein, vous imaginez un peu... Tout ce que j'avais raconté. Et donc, le lendemain, j'ai dit, s'il l'a fait, je vais y aller. Et je savais qu'à Saint-Jérôme, c'était un endroit où il y avait des confessions. Donc, je suis arrivé et je suis allé en confession avec un prêtre. Et c'était au fond. Alors, les prêtres, beaucoup sont âgés et ils vous disent souvent au début, j'entends pas très bien.
Oui, parlez un peu fort.
Parlez un peu fort. Et du coup, je me suis retrouvé à hurler mes péchés, alors qu'il y avait des gens qui étaient devant le Saint-Sacrement. Donc déjà, ça demande de l'humilité.
Ah oui.
Ça demande de l'humilité. Et une chose qui m'a surpris, c'est qu'à la fin de la confession, le prêtre me dit « Priez pour moi ». Et moi, dans ma tête, j'étais là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Avec tout ce que je viens de lui dire, c'est lui qui me demande de prier pour moi. Il a l'air d'un saint, il a l'air... donc cette première expérience, et du coup, c'est Notre-Dame du Bon Secours, qui est un Saint-Jérôme, donc c'est Saint-André, et puis après, bon, je suis...
Voilà. En tout cas, cette première confession, elle vous a mise en chemin.
C'est ça.
Et elle vous a mise en chemin pour une confession régulière, et c'est ce que nous allons voir juste après cette pause musicale. Je vous propose d'écouter le Miserere d'Allegri, interprété par le King's College de Cambridge.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le père Michel Pagès, recteur du sanctuaire Saint-Jérôme à Toulouse, et Hervé pour nous parler de la confession régulière et populaire. Hervé, vous nous avez raconté juste avant cette pause musicale comment vous étiez arrivé à cette première confession, un peu tiré par la main de la Sainte Vierge, Notre-Dame du Bon Secours. Cette première confession vous a mis finalement en route vers une confession régulière.
Oui, en fait, alors... À la fin de la confession, le prêtre me dit « Bon, bah maintenant, vous faites votre première communion et votre confirmation. » Puisque je ne l'avais jamais fait, il m'a donné les coordonnées, la personne a contacté. Et du coup, voilà, j'ai été catéchumène pendant un an et demi, je crois. Voilà. C'était quelque chose comme ça. Et je revenais en fait à la confession, on va dire, tous les un mois et demi, deux mois, parce que... bien, j'avais des chutes sur des péchés, sur des péchés alors mortels. Disons que c'est un prêtre, ça, qui peut le discerner. On ne peut pas vraiment nous-mêmes le faire, selon les circonstances ou ça. Mais bon, c'était à peu près la régularité que j'avais. Et j'attendais, en fait, la première communion pour pouvoir faire la dévotion. J'avais cet appel-là de faire la dévotion des premiers samedis du mois. Que la Sainte Vierge a demandé à Lucie, à Fatima. Et, bêtement, j'attendais ce sacrement pour pouvoir faire la dévotion. Ah. Je ne me rendais pas compte vraiment, je pense, de l'effet de ce qu'était l'Eucharistie. Et donc, cette dévotion m'a permis au final d'être régulier. Mmh. C'est-à-dire que je ne me suis plus dit « je vais y aller quand ça ne va pas ». Je vais y aller tous les mois, vu que je suis obligé avec cette dévotion. Et donc, tous les samedis, j'y vais. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que... alors, au début, on y va. Et puis, quand on revient pour les mêmes choses, au bout d'un moment, on en a marre. On en a marre, on pleure. Et je me souviens d'un prêtre qui me disait... Il me regardait, alors il tapait. Et c'est le père qui a 92 ans, là. Il me regardait avec un regard très énergique, il tapait du doigt sur la table, il me fait « Mais vous êtes là, il faut revenir toutes les semaines si vous pouvez !» Donc voilà, déjà ça, c'est rassurant parce que c'est un lieu de combat aussi, hein. c'est comme à Lourdes, comme à, voilà, dans plein d'endroits, c'est des lieux où il y a des combats, hein. Je pense que vous devez le vivre, hein, tous les jours. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus envie de... Vous vous dites, non mais, il y en a marre. Alors, on a tendance à penser qu'on peut, par nous-mêmes, y arriver. Sauf que non. Sauf que non, ce n'est pas nous qui y arrivons. C'est Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir dépasser certains péchés, certaines addictions. Voilà, c'est une grâce qui est donnée. Il y a plein de grâces qui sont données pendant la confession. Et ne jamais croire qu'on y arrive par soi-même. Ce n'est pas possible. Bien sûr, il faut de la volonté, il faut de la persévérance. Mais le fait d'être régulier, ça vous permet au bout d'un moment de vous dire... alors, quand je dis régulier, attention, c'est une chute. Ça. Moi, il faut que j'aille le lendemain. Parce qu'en fait, quand on est coupé de Dieu, c'est juste pas possible. Une fois, je n'ai pas pu communier le dimanche. C'était très dur. Mmh. C'était très dur de voir tout le monde aller communier. Et moi, je me suis même pas levé pour aller demander la bénédiction. Quoi. J'étais...
meurtri.
Oui, meurtri. Mmh. Et j'étais là, mais plus jamais. Plus jamais.
Et est-ce que cette confession régulière que vous avez mise en place, donc on comprend bien qu'elle vous aide à avancer, est-ce que c'est aussi l'occasion de recueillir... elle vous aide à avancer grâce à la grâce. Reçue par ce sacrement. Et est-ce que c'est aussi un lieu où vous recueillez quelques conseils pour avancer aussi dans votre foi, puis dans votre vie quotidienne, tout simplement?
Alors oui, on a des conseils. Moi, je sais que sur par exemple, des péchés d'addiction, après, je ne sais pas comment m'en sortir, parce que ça revenait, c'est inscrit dans le corps depuis des années. Donc, vous luttez contre ça, la volonté est là, mais bon, on est humain. Et un prêtre me dit une fois, mais qu'est-ce qui vous amène à ce péché? J'ai commencé à réfléchir, je dis, mais En fait, il y a toujours un début. Au début, c'est des petits péchés. Mmh. Puis au bout d'un moment, voilà, il y a quelque chose qui vous fait basculer, qui vous fait perdre le contrôle.
Vous êtes allé à la racine, en fait.
Voilà, c'est ça. En fait, vous allez à la racine, vous allez au déclencheur. C'est ce que je vais appeler le déclencheur. Voilà. Et ensuite, vous devenez vigilant, en fait. Vous êtes vigilant à ce qui va déclencher, ce qui va déclencher ça. Mmh. Et alors après, avec la régularité, ce qui est bien, c'est que... alors au début, vous écrémez les plus gros, hein. Ah, plus gros, quand vous êtes un gros poisson, vous enlevez toute la graisse, si je puis dire. Et ensuite, ensuite, vous êtes là, vous commencez à dire, bon, y a d'autres péchés, mais en fait, vous commencez à chercher. Vous commencez à chercher à l'intérieur. Donc là, il y a un travail qui se fait, un avancement, on va dire, spirituel. Et alors au début, vous êtes là, vous vous asseyez, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Et une fois, j'étais à Lourdes et j'attendais au confessionnal et il y avait un fascicule avec un examen de conscience à faire sur 3 pages. Donc il y avait les 10 commandements, les commandements de l'Église, les... Voilà. Je me suis dit, mais c'est génial. J'ai même pas cherché, j'ai qu'à lire ça. Et je dis, ah ben ça, je l'ai fait ce mois-ci, ça, je ne l'ai pas fait. Ça. Et donc petit à petit, vous avancez là-dessus. Alors... voilà, et vous commencez à devenir plus vigilant sur certaines choses que vous commencez à garder en mémoire. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, il faut rester, et c'est ce que disait le Père Michel tout à l'heure, il y a aussi cet aspect pastoral où, en fait, ils disent, voilà, on n'atténue pas le péché, mais en fait, en gros, c'est, moi, la phrase que je retiens, c'est, vous avez des grâces. Vous êtes venu voir Jésus, parce qu'en fait, c'est le Seigneur qu'on vient voir. Hein. Le prêtre, c'est un peu comme un assistant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. mais au final, c'est le Seigneur qu'on vient voir. Et donc, on a des grâces et on repart. Je sais que ma première confession, je suis reparti, j'étais cotonneux, j'étais vraiment léger, alors que j'étais mort spirituellement. J'étais vraiment au plus bas du bas. Hein. Moi, je voulais partir, sincèrement.
Ouais. Donc cette première confession et les autres par la suite vous ont restauré, vous ont sauvé.
Il y a une guérison aussi, comme vous parliez, des guérisons intérieures. Ouais. Et
une guérison. Père Michel Pachez, quelle est la dimension missionnaire de ce pardon reçu et donné par l'intermédiaire des prêtres pour ce lieu, dans ce lieu?
De fait, il y a une dimension missionnaire dans ce sacrement, comme dans ce qu'est l'Église dans son essence. Mais il y a une dimension là que vient évoquer Hervé, qui est une dimension pédagogique aussi. C'est-à-dire que, de fait, alors on est aidé, on fait un cheminement, on avance, et on sent bien qu'il y a comme une pédagogie de la grâce. Moi, j'ai un retour qui s'est gravé en moi d'un témoignage. Quelqu'un qui parlait d'une addiction, et qui disait, c'est comme si le Seigneur en avait eu marre de me voir ramer, alors il a agi. Mais quelle belle définition de la grâce! Elle a trouvé d'autres. C'est très touchant et plein de vérité. Donc une dimension pédagogique qu'on vient évoquer. Missionnaire, bien sûr. Mais est-ce que justement, ce n'est pas ça, la mission? Être accompagné dans la durée, dans le temps, dans les circonstances de sa vie, de son péché, de ses erreurs, de ses conversions. Il y a une phrase clé qu'on a mis en exergue à Saint-Jérôme qui vient du pape François. Il disait, il existe un lien inséparable entre la vocation missionnaire de l'Église et l'offre de la miséricorde à tous les hommes. Voilà, l'offre de la miséricorde à tous les hommes, c'est la mission. C'est permettre à des gens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, et quelle que soit l'errance qui les marque, de se remettre en marche. Et est-ce qu'on n'est pas dans ce que Jésus a fait, voilà, dans les guérisons, et ce qu'on appelle les miracles de sa vie publique, c'est vraiment la capacité de mettre des gens en route. Quand il disait « va » et désormais ne pêche plus. Voilà, il remet quelqu'un debout et il met cette dimension de conversion qui doit l'accompagner, pas comme un défi qui l'écrase, mais comme un appel dans lequel il va être accompagné. Donc il y a vraiment cette et pédagogie et missionnaire. Oui.
Dans les différents sanctuaires en France qui proposent l'adoration du Saint-Sacrement et puis ce lieu de confession, c'est un lieu de tradition populaire, de dévotion populaire. Est-ce que vous diriez que le sanctuaire Saint-Jérôme est finalement aux avant-gardes de la nouvelle évangélisation ?
J'étais très troublé à la messe que nous avons eue au congrès des recteurs à Paris fin janvier, des recteurs de sanctuaires. Et nous avons eu la grâce d'une messe à Notre-Dame, présidée par le nonce apostolique. Et dans son homélie, il a dit que nous étions aux avant-gardes de la mission dans les circonstances d'aujourd'hui. Et je ne vais pas développer, mais il a évoqué le fait que c'est un lieu, les sanctuaires sont un lieu où les gens viennent spontanément. Un lieu populaire. Mais on a parfois, même dans l'histoire de l'Église, un peu galvaudé ou moqué ce mot populaire. Et je crois que Vatican II a quand même rétabli la dignité du peuple de Dieu, il me semble, et qu'il n'est de ministre que dans le cadre d'un peuple et avec un peuple, pour et avec un peuple. Et que voilà, cette notion populaire, elle est digne. Et on l'a redécouvert. Et je pense que les sanctuaires offrent cette accessibilité que d'autres lieux, peut-être, n'ont pas spontanément. Et ça n'enlève rien à la grâce de chacun.
Pour terminer, en quoi diriez-vous que cette pratique de la miséricorde au cœur d'une ville, hein, vous disiez que c'était cette ville de Toulouse qui draine des personnes vraiment de tous horizons, en quoi cette pratique de la miséricorde est-elle le signe ?
Elle est le signe de l'état du monde, c'est-à-dire un monde tourmenté. Je pense que oui, on est un miroir quelque part de monde qui vit toutes sortes de tiraillements, d'errance, j'ai pas peur du mot, de quête, de violence aussi, de perte de repères. C'est un des sujets qui tient au cœur de notre archevêque, de perdre de repères. Et que quand on les a perdus, on se demande qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Et quelque part, ces lieux permettent, sont le miroir de ça. Après, on ne répond pas à tout. Mais après, il y a des relais dans l'Église et dans le monde. Mais je pense qu'on est un reflet, un miroir de ces quêtes profondes et, j'allais dire, existentielles, mais aussi basiquement humaines. Quand beaucoup de choses sont fragilisées, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et moi, je suis toujours frappé de voir des personnes qui sont là, mais qui disent je cherche mon chemin. Je cherche mon chemin.
Hervé, dans ces personnes qui cherchent leur chemin, qu'est-ce que vous diriez, vous, de cette foi, je dirais pas retrouvée, mais de cette foi qui est vraiment vécue au quotidien grâce à la prière du chapelet et puis évidemment la messe et ce sacrement de confession. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure sur ce beau cadeau que le Seigneur vous fait ?
Je pense que c'est un chemin qui nous permet de nous retrouver, nous, au final, et retrouver le Seigneur, parce que le Seigneur est en nous, et nous devons être en lui aussi. J'ai pas mal testé de spiritualité depuis une vingtaine d'années. Et bien sûr, ce n'étaient pas les bonnes. Et là, les grâces que j'ai eues, je sens les grâces arriver, notamment au retour de Lourdes. Là, j'en ai une récemment. Il y a des grandes grâces. Il y a des grandes grâces. Et moi, j'aimerais dire à surtout les jeunes et les personnes qui peuvent être aussi un peu plus âgées, qui ont été baptisées, mais qui ne sont jamais allées se confesser ou il y a très longtemps, bien d'y retourner, parce que le Seigneur, de toute façon, attend les bras ouverts. Le prêtre ne vous juge pas. Il est au contraire content. Vous savez, c'est l'image du Père qui ouvre les bras au Fils prodigue. Et donc, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Et au contraire, vous avez tout à gagner.
Oui, gagner la grâce du Seigneur. Merci infiniment. Merci Hervé pour votre témoignage et merci aussi à vous, Père Michel Pagès, de nous avoir fait découvrir ce beau lieu de miséricorde au cœur de Toulouse, au sanctuaire Saint-Jérôme. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie. Merci.
Merci. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.